Chapitre 13. Le domaine devait être luxueux, se dit Nietzsche alors qu'elle en approchait. Mais ça ne l'impressionnait pas car elle avait l'habitude de la grandeur. À dire vrai, elle avait sûrement déjà vu mieux. Pendant plus d'un siècle et demi, n'avait-elle pas vécu dans un lieu extraordinaire? Les colonnes, les arches, les sculptures majestueuses, les lambris en chêne, les lits aux édredons bourrés de plumes et aux draps de soie, les tapis moelleux, les riches tentures, les ornements en or et en argent, la chaude lumière filtrant de somptueux vitraux, tout cela avait fait partie de son lot quotidien. Sans parler des sœurs de la lumière, de leurs sourires chaleureux et de leurs conversations toujours spirituelles. Pour Nietzsche, l'opulence n'avait pas plus d'intérêt qu'un tas de détritus dans une rue. Et elle ne voyait pas de différence non plus entre les couches douillettes et les caniveaux où de pauvres airs dormaient enroulés dans des couvertures miteuses. Cela ne souriait jamais et leur conversation se réduisait à quelques borborygmes. Les yeux ronds, la bouche ouverte, ils regardaient les passants comme des pigeons avides qu'on leur jette quelques miettes de pain. Nietzsche avait passé une partie de sa vie dans la soie et l'autre au milieu des ordures. La plupart des gens ne connaissaient qu'une des deux facettes du monde, pas elle. Arrivée devant la porte du palais andérien, la maîtresse de la mort saisit la poignée d'argent d'une porte à double battant aux panneaux sculptés et dorés à leur fin. S'avisant que sa main était rouge de sang, elle l'essuya avec mépris sur la tunique d'un des deux gardes postés de chaque côté de la porte. Crasseux comme s'ils avaient grandi dans une porcherie, les deux soldats ne devaient pas en être à sa près. Pourtant, le colosse qu'elle prenait pour un vulgaire torchon la foudroya du regard, sans esquisser un mouvement pour s'écarter, cependant. Anya s'était acquittée de sa part du marché. Habituée à utiliser son pouvoir, pas une arme, Nietzsche avait dû s'adapter, car recourir à la magie, dans ce cas particulier, aurait été une grossière erreur. Lorsqu'elle avait plaqué la lame sur sa gorge, Anya lui avait soufflé un merci vibrant de sincérité. La première fois qu'une de ses victimes lui était reconnaissante. Jadis, quand elle aidait les gens, fort peu avaient daigné la remercier. Elle avait les moyens de donner, pas eux, et il était normal qu'elle subvienne à leurs besoins. Quand elle eut fini de s'essuyer la main sur le garde, elle lui sourit froidement, passa la porte et se retrouva dans un grand hall d'entrée. D'un côté, une rangée de hautes fenêtres protégées par des rideaux jaunes pâles rehaussés de liserés en fil d'or laissaient filtrer la chiche lumière du crépuscule. Dehors, une pluie de fin d'été martelait les pavés. Devant Nietzsche, les tapis ornés de fleurs laborieusement brodées à la main étaient maculés de boue. Des messagers allaient et venaient partout, suivis ou précédés par des soldats contraints de faire leur rapport à des officiers qui ne pouvaient pas s'empêcher de beugler dès qu'ils ouvraient la bouche. Dans un coin, sur une table basse, Nietzsche remarqua une carte déroulée et tenue aux quatre coins par des livres de prix tachés d'immondices. En passant, elle jeta un coup d'œil et constata, non sans satisfaction, qu'il manquait la majeure partie des éléments indiqués par le messager que le sergent Wetzel avait si efficacement torturé. Sur ce document-là, le nord-ouest était représenté par un grand vide souillé de quelques taches de bière. Sur la carte mémorisée par Nietzsche, on voyait des montagnes, des cours d'eau, des défilés, des cols et l'endroit exact où Richard se cachait avec la mère inquisitrice et une mort de site. Debout, assis sur de délicats guéridons ou vautrés dans de luxueux fauteuils, des officiers conversaient en se goinfrant de délicieux petits fours que des serviteurs, tremblant de peur, leur présentaient sur des plateaux d'argent. Peu familiers du luxe, les soudards de l'ordre semblaient prendre un malin plaisir à se comporter comme des porcs. Quand on savait regarder au-delà des apparences, comme Nietzsche, on devinait que cette attitude dissimulait, formale, la gêne instinctive qu'éprouvaient ces rustres dans un environnement raffiné. Du coin de l'œil, la maîtresse de la mort repéra une sœur qu'elle connaissait bien. Plaquée contre le mur, près d'une tenture, la pauvre vieille Lydmila faisait de son mieux pour passer inaperçue. Quand elle vit Nietzsche, elle se redressa, tira sur ses haillons, une initiative louable mais qui n'apporta aucune amélioration visible, et trouva le courage de sortir de son trou. Lydmila avait dit un jour à Nietzsche qu'on n'oubliait jamais les choses apprises dans sa jeunesse. À son âge, avait-elle ajouté, On s'en souvenait même plus facilement que du menu du dîner de la veille. Selon les rumeurs, la très vieille Lydmila, capable de jeter des sorts uniquement accessibles aux sorcières les plus puissantes, devait avoir de très intéressants souvenirs de jeunesse. Avec sa peau parcheminée tendue à craquer sur ses os, Lydmila ressemblait à un cadavre ambulant. Pourtant, elle avançait d'un bon pas et avec un vestige de grâce féline. À 10 pas de Nietzsche, elle agita un bras, comme si elle redoutait que la maîtresse de la mort ne l'ait pas vue, tant on devenait transparent avec l'âge. « Vous voilà enfin! Suivez-moi, très cher! L'empereur vous attend !» Lydmila prit Nietzsche par le poignet. « Conduisez-moi, sœur Lydmila, » dit la maîtresse de la mort en serrant la main de la vieille femme. « Je vous emboîterai le pas !» La vieille sœur sourit par-dessus son épaule. Pas de contentement, mais parce qu'elle était soulagée d'avoir rempli sa mission. Jagang punissait tous ses serviteurs défaillants, même quand ils n'étaient pour rien dans leur échec.
« Qu'est-ce qui vous a pris si longtemps, sœur Nietzsche? L'empereur est furieux à cause de vous. Où étiez-vous donc ?»«
Un travail qui ne pouvait pas attendre. »«
Un travail, vraiment ?»
répéta Lydmila. Elle accéléra le pas afin que Nietzsche ne la percute pas.
« Si ça ne tenait qu'à moi, vous seriez condamné à faire la plonge aux cuisines, pour vous punir d'aller en vadrouille alors que vous êtes attendu. »
Décrépite et un rien gâteuse, Lydmila oubliait parfois qu'elle ne vivait plus au palais des prophètes. Jagang l'utilisait essentiellement pour recevoir les gens à qui il accordait une audience et les guider jusqu'à lui. Si elle se perdait en route, il pouvait toujours intervenir puisqu'il la contrôlait mentalement. À l'évidence, il trouvait amusant qu'une vénérable sœur de la lumière, versée en antique magie qui plus est, soit réduite à jouer les hôtesses pour lui. Depuis qu'elle n'était plus sous la protection du sort temporel au palais, Lydmila avançait vers sa tombe à la vitesse d'un cheval au galop, comme toutes les autres sœurs, à vrai dire. La tenant toujours par la main, la vieille sœur au dos voûté guida Nietzsche à travers une enfilade de grandes salles et de couloirs. Arrivée devant une porte ornée de dorures, elle s'arrêta et se tapota pensivement la lèvre inférieure. Les soldats au visage fermé qui patrouillaient dans ce corridor jetèrent à Nietzsche des regards aussi noirs que sa robe. Des hommes de la garde impériale, moins crasseux et débraillés que les soudards moyens, mais encore plus dangereux.
« Son Excellence est dans cette pièce, » dit Lydmila. « Dépêchez-vous d'entrer, allons, ne traînez pas, sinon c'est moi qui paierai les pots cassés. »
Avant de passer la porte, Nietzsche se tourna vers la vieille femme. « Sœur Lydmila, vous m'avez dit un jour que j'étais la mieux qualifiée pour devenir la dépositaire de vos connaissances les plus, eh bien, particulières. » La vieille sœur eut un petit sourire rusé.
« La vraie magie vous intéresse enfin ?»
Jusque-là, Nietzsche n'avait jamais accepté les propositions de Lydmila. Pour elle, la magie était une quête par trop individualiste. Elle avait appris quelques sorts de base parce qu'il le fallait et n'avait jamais cherché à aller plus loin.
« Eh bien, je pense être prête, oui. J'ai toujours dit à la dame abbesse que vous étiez la seule au palais, digne de recevoir mon héritage. Mais ce sont des connaissances dangereuses.
Elles ne doivent pas disparaître avec vous, ma sœur. Transmettez-les-moi tant que vous le pouvez encore. »
Vous avez l'air d'avoir assez mûri pour ça, c'est vrai. Quand voulez-vous me voir?
Demain ou plus tôt? Nietzsche jeta un coup d'œil entendu à la porte.
Je doute d'être très réceptive ce soir. Rendez-vous demain dans ce cas.
Si je peux venir vous voir, un grand désir d'apprendre m'anima. Je suis surtout avide d'en savoir plus sur le sort de maternité. Si étrange que fût son nom, ce sortilège pouvait très bien être ce qu'il lui fallait. De plus, il avait un énorme avantage. Une fois lancé, plus rien ne pouvait l'arrêter. Lydmila se tapota une nouvelle fois la lèvre inférieure.
« Rien que ça ? » soupira-t-elle. « Je suis en mesure de vous l'enseigner, et contrairement aux autres sœurs, vous avez les compétences requises pour l'utiliser. » Le don doit être très puissant chez une personne pour qu'elle manipule de telles forces. C'est votre cas? Si vous mesurez ce que cela vous coûtera, et si vous acceptez de payer ce prix, Je suis prête à vous former.
S'il en est ainsi, je viendrai vous voir dès que je le pourrai. Lin Mila s'éloigna à petits pas, la tête rentrée dans les épaules comme si elle réfléchissait déjà à la leçon à venir. Nietzsche la regarda un moment, se demandant si elle serait encore vivante le lendemain pour se faire dispenser les lumières de la vieille magicienne. Puis elle entra dans une grande pièce éclairée par une myriade de chandelles et de lampes. Entourée de moulures qui représentaient des feuilles et des glands, le très haut plafond ajoutait encore à la paisible majesté de la salle, où des sofas et des fauteuils moelleux, trônant sur des tapis aux couleurs pastel, semblaient inviter au calme et à la méditation. Fermées par de riches tentures, les nombreuses fenêtres ne laissaient filtrer aucune lumière et étouffaient tous les sons venus de l'extérieur. Les deux sœurs assises sur un canapé se levèrent d'un bond.
« Sœur Nietzsche !»
souffla la première, visiblement soulagée. L'autre courut jusqu'à une porte, à l'autre bout de la pièce, et l'ouvrit sans frapper, sans nul doute parce que Jagang lui en avait donné l'ordre. Passant la tête dans la salle d'à côté, elle murmura quelques mots que la maîtresse de la mort ne comprit pas.
« Dehors !»
rugit une voix masculine.
« Sortez tous ! À part elle, que tout le monde fiche le camp !»
La sœur recula, et deux de ses collègues, des assistantes personnelles de l'empereur, franchirent la porte en courant de toutes leurs jambes. Nietzsche dut s'écarter pour laisser passer les quatre sœurs de la lumière qui se précipitèrent vers la porte de la suite en compagnie d'un jeune homme jusque-là recroquevillé dans un coin sombre. En fuyant le courroux de leur maître, les cinq serviteurs de Jagang ne jetèrent pas un coup d'œil à la maîtresse de la mort. Quand son excellence donnait un ordre, il fallait obéir sur le champ, car rien ne l'énervait plus que les traînards. Une autre femme, que Nietzsche ne connaissait pas, sortit en courant de la pièce où l'empereur attendait. Jeune et belle, avec de magnifiques cheveux noirs, c'était sans doute une prisonnière capturée quelque part en chemin par l'armée et offerte à Jagang pour son divertissement. Dans ses yeux, Nietzsche eut le temps de lire une incroyable stupeur, comme si elle trouvait que le monde était devenu fou. Les dégâts collatéraux de ce genre étaient inévitables quand on entendait modifier radicalement l'ordre des choses. Comme n'importe qui, les grands chefs avaient des défauts qu'ils tendaient à considérer comme véniels. Le bien que Jagang ferait à toute l'humanité compensait largement les actes contestables qu'il s'autorisait et le chaos, si ce n'était pas un trop grand mot, qu'il semait dans la vie de quelques êtres insignifiants. D'ailleurs, Nietzsche était souvent la victime de ces anodines transgressions et elle n'en faisait pas une affaire. Pour que s'améliore le sort des déshérités, n'était-ce pas un prix acceptable? Car au bout du compte, seul l'objectif final de toute cette affaire importait. Une fois la porte d'entrée fermée, Nietzsche se retrouva seul dans la suite avec le maître de l'ordre impérial. Les bras le long du corps, elle savoura un moment la quiétude des lieux. Le luxe ne l'impressionnait pas, mais la tranquillité, une denrée rare pour elle, figurait parmi les petites satisfactions égoïstes qu'elle ne s'interdisait pas. Faisant du regard le tour de la première pièce, elle se demanda d'où Jagang tirait ce goût soudain pour la splendeur, à moins que lui aussi ait eu envie d'un peu de calme. Nietzsche se tourna vers la porte communicante. Derrière, un colosse furieux l'attendait. Elle entra d'un pas décidé et se dirigea bravement vers l'empereur.
« Vous désiriez me voir, Excellence ?»
La main de Jagang vola dans les airs et s'écrasa sur la joue de Nietzsche, une gifle d'une incroyable violence, décochée du dos de la main. Le souffle coupé, la maîtresse de la mort tomba à genoux, mais Jagang la releva par les cheveux et frappa de nouveau. Cette fois, Nietzsche alla s'écraser contre un mur, puis glissa lentement sur le sol. La douleur était inimaginable. Dès qu'elle eut un peu récupéré, Nietzsche se redressa et vint se camper devant l'empereur. Propulsée en arrière par le troisième coup, elle renversa un candélabre dont les bougies s'éparpillèrent autour d'elle. Essayant de s'accrocher à une tenture, elle l'arracha à son support et s'écroula sur une table basse qui ne résista pas au choc. Des éclats de verre volèrent dans les airs en même temps que les bibelots exhibés sur la table. Sonnée, la vision brouillée, la mâchoire et les muscles du cou lui faisant un mal de chien, Nietzsche resta étendu sur le sol. Qu'il était bon d'éprouver quelque chose, même quand il s'agissait d'une atroce souffrance. Du sang maculait le tapis où elle gisait en savourant le bonheur paradoxal de n'être plus, pour un instant, indifférente à tout.
Jagang lui cria quelque chose qu'elle ne comprit pas, parce que ses oreilles bourdonnaient trop. S'appuyant sur un bras, elle parvint à s'asseoir, se tâta la bouche et découvrit qu'elle était poisseuse de sang. Depuis combien de temps ne s'était-elle plus sentie si vivante, à part durant quelques minutes en compagnie de la mort de Sitt? La brutalité de Jagang parvenait à réveiller son âme, et c'était déjà ça. Parce qu'il était plus cruel que n'importe qui? Pas vraiment. Nietzsche n'aurait pas été obligé de se livrer ainsi à lui, et toute la différence était là. L'empereur savait qu'il en était ainsi, et cela le rendait plus furieux encore. Ce soir, une rage meurtrière l'animait. Certaine à présent qu'elle ne serait plus là le lendemain pour apprendre la magie de l'Inmila, Nietzsche n'en fut pas plus ému que cela. Avec une certaine curiosité, elle se demanda comment Jagang en finirait avec elle. Dès que sa tête consentit à tourner un peu moins, Nietzsche se releva et, comme un bon petit soldat, revint se placer devant Jagang. La tête rasée, ce colosse arborait une petite moustache et un embryon de bouc qui accentuait ses traits bestiaux. À sa narine gauche était passé un anneau d'or qu'une fine chaîne du même métal reliait à la boucle d'oreille qu'il portait du même côté. Bien qu'il eût une énorme chevalière à chaque doigt, il n'avait pas jugé bon ce soir de mettre autour de son cou les colliers et les chaînes d'or qui symbolisaient d'habitude sa royale autorité. Il était torse nu, comme souvent. Sous sa poitrine velue, ses pectoraux saillaient, aussi tendus que les muscles de son cou de taureau. D'une bonne demi-tête plus petite que lui, Nietzsche se tint bien droite et leva le regard vers les yeux sombres apparemment dépourvus d'iris et de pupilles qui hantaient régulièrement ses cauchemars. Les yeux d'un homme capable de marcher dans les rêves et qui bouillait de rage parce que l'accès à un esprit lui était interdit. À présent, Nietzsche savait pourquoi il en était ainsi.
« Bon sang, crie, pleure, hurle, implore, présente ta défense ou confonds-toi en excuses, mais ne reste pas comme ça !»
Sans broncher, Nietzsche avala péniblement un mélange de salive et de sang.
« Pourriez-vous être plus spécifique, Excellence ? Quelles options dois-je choisir et pendant combien de temps faut-il que je me donne en spectacle? Jusqu'à ce que vous m'ayez battu à mort, peut-être? »
Jagang bondit, saisit Nietzsche à la gorge et serra de toutes ses forces. Très vite, les genoux de la sœur de l'obscurité se dérobèrent, mais il l'empêcha de s'écrouler, la tenant debout d'une seule main. Puis, il la lâcha et la repoussa d'une paume méprisante.
« Je veux savoir pourquoi tu as fait ça à Kadar !»
Nietzsche sourit malgré ses lèvres éclatées. Jagang la prit par le poignet, lui retourna le bras dans le dos et la tira vers lui.
« Au nom de quoi as-tu agi ainsi? Je dois le savoir !»
Consciente de danser avec l'empereur un bal immortel, Nietzsche se demanda vaguement si elle s'en sortirait vivante cette fois. Jagang avait tué des dizaines de sœurs parce qu'elles ne s'étaient pas montrées assez dociles. La garantie relative de Nietzsche en face de lui était de ne pas se soucier de sa propre survie. Ce mépris de la vie fascinait l'empereur parce qu'il le savait sincère.
« Parfois vous êtes idiot, Excellence. Comment peut-on être arrogant au point de ne pas voir ce qui crève pourtant les yeux ?»
L'empereur exerça une telle traction sur le bras de Nietzsche qu'elle crut que son épaule allait se déboîter.
« J'ai tué des gens pour des insultes bien moins graves. »«
Mais ce soir, vous semblez plutôt décidé à me faire mourir d'ennui. Si vous voulez en finir, étranglez-moi, qu'on n'en parle plus, ou taillez-moi en pièces si vous préférez. Mais par pitié, n'espérez pas m'étouffer sous le poids de ridicules menaces. Ça ne marchera pas, et je n'ai pas de temps à perdre en enfantillage, alors étripez-moi ou fermez-la. »
Face à Jagang, la plupart des gens commettaient une erreur grossière. Le prendre pour un imbécile à cause de sa bestialité. En réalité, il était un des hommes les plus intelligents que Nietzsche ait connus, et sa brutalité bien réelle lui servait d'écran de fumée. Capable de s'introduire dans l'esprit de gens très différents, Il avait découvert de l'intérieur leurs idées, leurs connaissances et leur philosophie, et cela avait encore développé son intellect. Si Nietzsche redoutait quelque chose en lui, ce n'était pas sa violence, mais son intelligence supérieure. Parce que la vivacité d'esprit, elle était bien placée pour le savoir, se révélait une inépuisable source d'inspiration pour tout être qui entendait s'illustrer dans le domaine de la perversité.
« Pourquoi as-tu tué Kadar, Nietzsche ?»
demanda Jagang, la voix vibrant un peu moins de fureur. Comme une barricade, l'image de Richard se dressait dans l'esprit de Nietzsche, empêchant l'empereur d'y pénétrer. Elle se savait hors d'atteinte, il le lisait dans ses yeux et cela le rendait encore plus furieux.
« J'ai pris plaisir à entendre le grand Kadar Cardiff implorer ma pitié puis m'insulter quand il a compris que ça ne marcherait pas. »
Jagang rugit et frappa de nouveau. Basculant en arrière, Nietzsche se prépara un atterrissage douloureux sur le sol. Allait-elle se briser la nuque cette fois? À sa grande surprise, elle s'écrasa sur une surface moelleuse. Le lit, comprit-elle aussitôt. Par un incroyable coup de chance ou de malchance, sa tête n'avait pas percuté les montants de bois et de marbre, un choc qui lui aurait probablement fait exploser le crâne comme une noix. Jagang se jeta sur elle. Bizarrement, il ne leva plus la main pour la frapper, mais sonda longuement son regard. Puis, il se redressa un peu et entreprit d'arracher les lacets de sa robe. Déchirant le tissu, il posa les mains sur ses seins et les pétrit jusqu'à ce qu'elle en ait les larmes aux yeux de douleur. Nietzsche ne tenta pas de résister quand il la troussa comme une vulgaire catin. Inerte comme une morte, elle laissa dériver son esprit vers des contrées qu'elle seule pouvait atteindre. Jagang se laissa retomber sur elle. Les bras le long du corps, les mains ouvertes et les yeux rivés au plafond, la maîtresse de la mort assista de très loin à la scène qui suivit. La douleur elle-même lui semblait très distante, et elle trouvait un peu ridicule la façon dont elle haletait. Tandis que l'empereur la besognait, elle se concentra sur le plan qui se précisait de plus en plus dans son esprit. Elle n'aurait jamais cru que cette possibilité se présenterait à elle, et c'était une erreur. À présent, elle n'avait plus qu'à décider de passer à l'action. Jagang la gifla, la ramenant au présent.
« Tu es trop stupide pour pleurer ?»
Nietzsche s'avisa qu'il en avait terminé. Apparemment, il n'était pas ravi qu'elle ne s'en soit pas aperçue plus tôt. La mâchoire en feu, la maîtresse de la mort, dut faire un effort pour ne pas se l'amasser. Ce que Jagang tenait pour une gifle était en réalité un coup capable de fracasser le crâne de quelqu'un. Du sang, celui de Nietzsche, coulait du menton de l'empereur et s'écrasait sur les joues de sa victime. Tout le corps luisant de sueur, Jagang le taureau savourait le calme fugitif que lui apportait la satisfaction de ses instincts. Quand elle croisa son regard, Nietzsche y reconnut de la colère. Mais il y avait aussi autre chose, une pointe de regret, d'angoisse, ou peut-être même de souffrance.
« C'est ce que vous voulez, Excellence, que je pleure ?»
Jagang se laissa tomber sur le côté, le long du flanc de Nietzsche.
« Non, je voudrais que tu réagisses. »«
Mais je réagis, Excellence. Pas comme vous l'aimeriez, c'est tout. »
L'empereur s'assit au bord du lit.
« Qu'as-tu donc dans la tête, femme ? »
grogna-t-il. Nietzsche le dévisagea un moment et il finit par détourner le regard.
« Je n'en sais rien, »
répondit la maîtresse de la mort avec une scrupuleuse sincérité.
« Mais il faudra bien que je finisse par le découvrir. »